Bonsoir.
Bienvenue au doctorat sauvage en architecture, la dernière séance de l'année avant la rentrée. Ce soir, c'est une soirée particulière qui ne rentre pas dans le cycle de cette année, qui tournait autour notamment du cinéma ou de la Russie. Mais là, c'est une proposition de Marine Simon sur une conférence d'Itonoé. Je voulais juste vous dire quelques mots sur la programmation l'année prochaine. On n'a encore rien communiqué. Mais l'année prochaine, voilà, on va faire deux cycles. Un cycle sur le sexe et la ville, et un autre cycle sur les bêtes et la ville. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, vous aurez le programme à partir de septembre. Bonne soirée, et je vous laisse en compagnie de Marine Simon.
Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Merci à Échelle Inconnue de m'inviter pour parler de mon sujet de mémoire en fait. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet pendant 2 ans, sur le féminisme au Japon et plus particulièrement sur cette féministe. Je vais vous expliquer un peu pour essayer de vous faire comprendre le contexte global de l'époque, comment une personnalité pareille a pu produire autant d'écrits anarchistes qui l'a amené à se faire assassiner finalement en 1923 par l'armée, donc une décision étatique, et puis vous faire comprendre un peu et vous faire rentrer dans les sphères marginales du Japon des années 20. Quand je me suis rendue au Japon pour la première fois en 2012, la question de la place des femmes m'a d'emblée questionnée, puisque la tradition est très fortement ancrée dans ce pays. On peut se demander en fait si la place des femmes, le droit des femmes, les femmes sont-elles égales aux hommes, et si le pays en fait finalement est machiste. Alors c'est une caricature dite comme ça, mais d'extérieur quand on arrive avec le choc culturel, c'est quelque chose qui peut paraître flagrant. On peut se demander si la différence entre les hommes et les femmes, elle est perçue ou est-ce qu'elle est considérée finalement comme un fonctionnement où chacun trouve sa place, hommes et femmes, avec un rôle bien défini. Pour vous donner un chiffre concret, par exemple, en 2016, le Japon est toujours la 3e économie mondiale, et le Global Gender Gap Report, donc, qui étudie en fait les différences de droits entre hommes et femmes, place le Japon à la 116e place sur 135. Donc ça paraît flagrant, et c'est pas du tout en termes d'éducation, puisque les femmes accèdent au même niveau d'éducation que les hommes, mais c'est plutôt en termes de pouvoir politique ou d'opportunités dans le monde économique du pays. Donc avec un tel résultat, en voyant ces chiffres, donc c'était à peu près les mêmes en 2012, le Japon a même diminué en fait en termes d'égalité hommes-femmes depuis 2012. Je me suis demandé s'il y avait eu une vague féministe au Japon, comme on a pu le voir aux États-Unis ou en Angleterre avec les suffragettes, ou même en France. Et pour essayer de comprendre de quelle construction sociologique en fait découlait le Japon d'aujourd'hui et la culture traditionnelle encore très ancrée. Donc du coup, mes premières recherches se sont portées sur la fin de l'ère Meiji. Donc l'ère Meiji, pour vous expliquer rapidement, c'est à partir de 1868, et c'est quand le Japon décide de se réouvrir au monde, pour aussi bien les exportations économiques que culturelles. Donc mon objectif, c'est de vous plonger dans ce début de XXe siècle, de vous faire comprendre comment la trajectoire extraordinaire d'Itonoé a pu exister. Est-ce que c'était une exception pour son époque, ou au contraire, est-ce qu'elle était dans un terreau propice pour s'élever au rang d'anarchiste et de féministe de renom? Alors jusqu'à la fin, donc je reviens un peu en arrière, même très loin en arrière, dans l'histoire du Japon, jusqu'à la fin de l'ère Heian, donc qui commence en 794, le Japon est gouverné par un empereur qui est élevé au rang de divinité. À la fin du XIIe siècle, les samouraïs et les familles de samouraïs deviennent de plus en plus puissantes, ce qui oblige l'empereur à trouver un chef commun pour tous ses seigneurs, qui s'appelle le shogun. Et commence alors, donc à la fin du XIIe siècle, le shogunat. Donc le shogun dirige tous les seigneurs, et devient la principale institution au Japon. Les seules importations que connaît le Japon à ce moment-là, ce sont les importations d'armes. Le shogunat ferme totalement le Japon, que ce soit en termes d'apport culturel ou économique. Jusqu'en 1853, le Japon, tant bien que mal, arrive à rester fermé et prospère comme ça. Et en 1853, des bateaux américains pénètrent sur l'île. Un débat s'instaure alors. Est-ce qu'on ouvre le Japon, ou est-ce qu'on reste comme on est? Et pour des raisons économiques, le shogun refuse d'ouvrir, le Japon au reste du monde. mais c'est trop tard. Donc la France s'allie, la France de Napoléon III s'allie avec le Japon et décide de, enfin, et l'aide militairement à le laisser fermer. L'Angleterre, elle, se rallie aux familles seigneuriales, les samouraïs dont je vous parlais tout à l'heure, pour renverser le shogun, ce qui se produit en 1868. Donc, c'est le début de l'ère Meiji, de la restauration de l'empereur qui redevient la personne étatique principale, de la réouverture totale au monde et donc de l'entrée dans le pays de nouvelles références culturelles, sociales, économiques et aussi politiques. Et cette époque marque pour nous, et pour le sujet qui nous intéresse ce soir, le début de changement en matière de droits des femmes et de socialisme au Japon. Brièvement, un exemple le plus parlant, je dirais, de cette ouverture au monde, c'est Tsuda Umeko. C'est une chrétienne qui naît dans une famille chrétienne et qui, pour ses études, part aux États-Unis lors d'une mission qui s'appelle la mission Iwakura et qui avait pour objectif, en fait, d'envoyer des diplomates et des étudiants en Occident et aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis, pour essayer de penser la nouvelle construction du Japon moderne en prenant des exemples un peu partout en Occident. Donc Umeko, elle reste aux États-Unis jusqu'à ses 18 ans, puis elle rentre au Japon et devient institutrice pour jeunes filles de rang élevé. Elle retourne finalement aux États-Unis à 25 ans et fait une thèse en biologie sur les œufs de grenouille, sous la direction de Thomas Hunt Morgan, qui deviendra plus tard prix Nobel de médecine. Quand elle rentre au Japon, elle décide d'ouvrir son école pour filles, donc qui s'appelle le Collège Tsuda, que, comme vous pouvez le voir, il existe encore aujourd'hui, et il est actuellement une des écoles pour femmes les plus prestigieuses. Donc voilà l'exemple d'un parcours notable d'une femme qui s'est ouverte au monde au début de l'ère Meiji. Malgré ça, c'est une exception. Je vais vous parler un peu des mœurs de l'époque en termes de mariage et d'éducation des filles. Donc même si on a cette tendance légère à la libéralisation, les relations hors mariage restent toujours condamnées. Les mariages se font beaucoup encore par le biais d'entremetteurs professionnels. Et il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui ont recours à des agences matrimoniales qui mettent en relation un couple. On a aussi un exemple plus parlant, les petites annonces dans les journaux, qui permettent en fait de voir quelles étaient les normes attendues pour une japonaise de l'époque et qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la parfaite épouse. Alors je vous lis la première, qui paraît en 1881 dans le Ishikawa Shimbun. J'ai une fille âgée de 16 ans qui peut exercer toutes sortes de travaux de femme. Toutes les voisines admirent ses multiples facultés. De plus, elle sait jouer du shamisen depuis son plus jeune âge. Elle en joue si bien qu'elle pourrait même animer un banquet. Sa beauté est supérieure à la moyenne, son nez n'est ni trop haut ni trop bas, ses lèvres sont rouges et pleines de charme, son visage est blanc comme neige, sa voix est rafraîchissante. Son caractère est doux. Étant son père, je veux la marier le plus tôt possible, mais je ne lui ai pas encore trouvé de mari. Ma femme et mes parents et moi-même le regrettons fort. La personne qui désire la prendre pour épouse doit le faire savoir à ce journal. Donc là, rien qu'avec cette annonce, on voit quelles sont les normes de beauté de l'époque pour les japonaises, donc la peau très pâle, le caractère doux, voilà. Une autre qui est frappante aussi, qui paraît l'année suivante dans le Konobawa Shimbun. J'ai une fille de 16 ans qui n'a jamais frotté sa peau à celle d'un homme. Elle est de taille et de corpulence moyenne. Les voisines l'admirent beaucoup. Son intelligence et son esprit vif sont acceptables pour une japonaise moyenne. L'homme qui conviendrait à ma fille est prié de contacter Monsieur Takahashi Korobei à l'adresse suivante. Voilà, donc, bon, comme dans beaucoup de pays, la virginité est une question centrale pour un mariage acceptable. Et donc, on voit que le père atteste ici de la pureté de sa fille. Il n'en reste pas moins qu'en fait, d'après ces annonces, on voit que finalement, la femme est cantonnée au foyer et y reste, et que sa valeur première, on va dire, c'est de procréer. Et beaucoup de proverbes japonais circulent à cette époque. Par exemple, après 7 ans de mariage, si la femme n'enfante pas, elle doit laisser sa place à quelqu'un d'autre. Sachant que la femme n'a pas le droit de divorcer elle-même, donc c'est le mari qui doit commencer cette démarche. On a aussi « Monsieur vaut bien madame, mais jamais l'inverse » ou « Une bonne bru invite au bonheur » ou « C'est la femme qui ouvre la porte de la famille » ou « Une mauvaise bru détruira la famille » ou encore « Une mauvaise bru est comme une mauvaise récolte qui durerait 100 ans ». Donc, parmi ces proverbes, en fait, je trouve qu'on saisit bien une contradiction qui est encore présente au Japon, c'est qu'à la fois on cantonne la femme au foyer, mais en même temps elle reste le pilier central du foyer, et donc sans elle le foyer n'existe pas. Donc ça lui donne un rôle tout de même, et pas des moindres, puisqu'elle elle a pour fonction, on va dire, de gérer ce foyer au mieux, de le faire prospérer, et c'est elle principalement qui gère aussi l'économie en général du foyer. Donc on arrive dans ces années à la fin de ce 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est aussi un moment où, en parallèle de, on a vu l'exemple de Tsuda Umeko, que se développent des idées anarchistes avec des anarchistes de premier plan. Donc par exemple, en janvier 1911, un groupuscule anarchiste est accusé d'avoir mené des démarches dans le but d'organiser un attentat contre l'empereur. Et sur les 24 personnalités, 11 sont exécutées immédiatement. Et notamment Kotoku Shusui, qui est un anarchiste très connu, et qui, en fait, sa pendaison symbolise aujourd'hui l'apogée de la censure au Japon en termes d'idées socialistes. Et quand on étudie un peu ce personnage, on se rend compte que c'est plus pour sa théorie, plus que pour son implication réelle dans le complot, puisqu'il n'a pas forcément agi pour, qu'il a été pendu. Donc vous voyez à peu près le contexte dans lequel naît la féministe dont on va parler, à la fois une ouverture sur le monde, mais en même temps une censure extrêmement présente et un contrôle gouvernemental des idées omniprésent. Ce qui fait d'elle, en fait, un personnage, on va dire, exemplaire. Donc elle est née, Itonoé, en 1895, à Fukuoka, ici, donc au sud du Japon, vous voyez, c'est loin de Tokyo. Dans une famille de commerçants, plutôt pauvres, et elle entre en 1903 à l'école primaire. À cette époque-là, le Japon vient de gagner la guerre contre la Chine, ce qui augmente considérablement les niveaux de vie, et l'État prend alors en charge 6 années scolaires pour tous les enfants. Les difficultés financières à la fin des 6 années d'études, des premières années d'études d'Itonoé, sont toujours présentes chez ses parents, et c'est pour ça qu'elle part chez un oncle, étudier en compagnie de sa cousine Chiyoko. Lorsqu'elle achève son cycle de primaire, elle est renvoyée dans son village et elle commence à travailler à la poste. Elle apprend en parallèle que sa voisine Chiyoko, elle, va poursuivre des études au Japon, à Tokyo, ça la frustre au plus haut point de voir qu'elle a fait les mêmes études pour l'instant que sa cousine, et que sa cousine, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle sort d'une famille qui a de l'argent, peut continuer ses études. C'est alors qu'elle rédige une lettre à l'attention de son oncle en le suppliant de lui permettre à elle aussi d'aller à Tokyo et de continuer ses études. La ferveur qui s'en émane frappe son oncle et frappe un ami écrivain qui était avec elle. Et ils s'étonnent en fait les deux de la masculinité de son écriture pour son âge. Donc finalement c'est accepté. Parmi les sources, on ne sait pas si c'est l'écrivain en question, enfin l'écrivain qui a lu la lettre avec l'oncle, qui paye les études, ou si c'est l'oncle. Ça dépend des historiens. J'avoue que j'ai pas tranché la question, donc c'est un des deux. Mais en tout cas, ses études pour rentrer à l'université de Ueno, une université pour les femmes, est acceptée. Elle passe un concours pour rentrer en troisième année, mais son concours est tellement brillant qu'elle rentre directement en quatrième année, sur cinq. Il lui reste 2 ans d'études à faire. Et elle rentre donc dans cette université qu'on peut qualifier de plutôt progressiste, puisque c'est une université qui refuse d'inscrire dans le règlement de l'école l'adage « Lyosa e Kembo », ça veut dire « bonne épouse, mère avisée ». Donc elle fait une première année d'études, une deuxième, où elle rencontre un professeur d'anglais, Tsuji Jun, qui va être important pour elle. Elle se lie très vite avec lui et découvre de nombreux ouvrages et apprend vraiment à parler anglais et à pouvoir lire des écrits en anglais. En 1912, elle est officiellement diplômée de l'université de Ueno. Elle doit rentrer dans sa famille, donc à Fukuoka, pour être mariée de force avec un oncle éloigné. Le mariage forcé était courant à l'époque avec des oncles éloignés, des cousins, etc. Dans un premier temps, elle refuse, mais en fait, elle apprend un peu plus à connaître cette personne, et il se trouve en fait que c'est un homme qui est déjà allé en Amérique. Donc, avec l'espoir de partir en Amérique, elle se dit « d'accord, je vais me marier avec ». Mais en fait, le jour de son départ de Tokyo pour retourner à Imajuku, à Fukuoka, sa relation avec son professeur d'anglais dont je vous parlais tout à l'heure, Tsuji Jun, prend un nouveau tournant. Et quand elle rentre, en fait, elle s'enfuit, elle fugue de la maison conjugale au bout de 9 jours. Ce qui met la famille évidemment dans l'embarras, diplomatiquement, avec et puis c'est encore son oncle donc qui lui a payé les études, qui paye les frais de divorce, etc. Et qui vient une fois encore à son secours. Comme elle a étudié un peu dans la capitale déjà, ça lui a donné accès à une nouvelle culture et à des relations beaucoup plus importantes. Et en septembre 1911, elle découvre la revue Saito, une revue féministe qui prône l'émancipation féminine et l'égalité homme-femme. Et ça va être un marqueur dans sa carrière, en tout cas le marqueur le plus important, je dirais. Donc Saito, c'est créé par Hiratsuka Raicho, ou Hiratsuka Haruko. Raicho, c'est son nom d'auteur. Elle est née en 1886, donc 9 ans avant Itonoé. Et c'est la fille d'un respecté gouverneur officiel qui parlait très bien allemand et qui était dans une famille, on dira, très occidentalisée. Elle fait des études en art ménager, malgré sa volonté de faire des études en anglais, mais entreprend en parallèle des lectures d'écrits féministes. Après son diplôme, elle intègre un groupe littéraire pour s'entraîner à écrire. Elle décide de créer Saito. Donc Saito, c'est une revue qui est créée grâce à la dot de son mariage. Donc sa mère accepte de mettre l'argent prévu pour son mariage dans la revue. Et Saito, en fait, ça veut dire les bas bleus. Donc les bas bleus, c'est The Blue Stockings. C'était un salon littéraire anglais qui avait été créé dans les années 1720 par Elizabeth Montagu. Donc on voit dès l'apparition un occidentalisme prononcé et prôné, sachant que bas bleu dans le monde ça a été repris et ça voulait dire, enfin, par exemple Gustave Flaubert le décrit comme ça, bas bleu, terme de mépris pour désigner toute femme qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Donc elles reprennent ce slogan pour en faire finalement une force. Et la première réunion en 1911, à la suite de cette réunion, est rédigé un article. Notre but sera de donner naissance un jour prochain au talent des femmes. Nous, femmes, sans la moindre exception, sommes tous des génies cachés. Je suis convaincue de l'existence de ce génie commun à toutes les femmes. Donc le premier numéro paraît en 1911, avec pour couverture l'illustration de Takamura Chieko, avec un premier article, « In the beginning, woman was the sun », au commencement, la femme était le soleil. Qui devient en fait très rapidement un manifeste féministe, repris encore aujourd'hui, traduit dans beaucoup de langues. Et avec Noriko, on va vous en faire la lecture.
Genshi, 女性は実に太陽であった。神聖の人であった。今、女性は月である。他によって生き、他の光によって輝く病人のような青白い顔の月である。さてここに政党は産声を上げた。現代の日本の女性の頭脳と手によって初めてできた政党は産声を上げた。女性のなすことは今はただあざけりの笑いを招くばかりである。私はよく知っている。あざけり笑いの下に隠れたるあるものを。そして私は少しも恐れない。しかしどうしよう、女性自らの上に新たにした羞恥と侮辱の痛ましさを。女性とは核も王都に値するものだろうか。いないな、神聖の人とは。私どもは今日の女性としてできるだけのことをした。心のすべてを尽くして、そして産み上げた子供がこの政党なのだ。よし、それは帝王児だろうが、奇形児だろうが、創世児だろうが、仕方がない。しばらくはこれで満足すべきだと。果たして心のすべてを尽くしただろうか。ああ、誰か満足しよう。私はここにさらにより多くの不満足を女性自らの上に新たにした。女性とは核も育児なきものだろうか。いないな、神聖の人とは。しかし私としてこの真夏の日盛りの中から生まれた政党が極熱をもよく熱殺するだけ、それだけ熱烈な熱性を持っているということを見逃すものではない。熱性、私どもはただこれによるのだ。熱性とは祈祷力である。意志の力である。前提力である。浸透力である。言い換えれば精神集中力である。神秘に通ずる唯一の門を精神集中という。 私は精神集中のただ中に天才を求めようと思う。天才とは神秘そのものである。神聖の人である。
Au commencement, la femme était le soleil, une personne authentique. Maintenant, la femme est la lune. Pâle, elle vit par la lumière des autres, dans l'ombre, comme une malade. Saito annonce sa naissance. Créée par les cerveaux et les mains des femmes japonaises d'aujourd'hui, Saito pousse un cri comme un nouveau-né. Aujourd'hui, tout ce que la femme fait invite à un rire méprisant. Je sais très bien ce qui se cache derrière ce rire méprisant. Pourtant, je n'ai pas peur. La femme est-elle si inutile qu'elle n'apporte que des nausées? Non, car c'est une personne authentique. Au commencement, la femme était vraiment le soleil, une personne authentique. Maintenant, la femme est la lune, pâle, elle vit par la lumière des autres, dans l'ombre, comme une malade. Le temps est venu de reprendre le soleil caché en nous. Révéler le soleil caché en nous. Révéler le génie caché en nous. C'est le cri que nous crions sans relâche à nous-mêmes, la soif qui refuse d'être supprimée, le seul instinct qui unifie tous les instincts et finit par faire de nous une personne complète. Notre sauveur est le génie en nous. Nous ne cherchons plus notre sauveur dans les temples ou dans les églises, auprès de Bouddha ou de Dieu. Nous n'attendons plus la révélation divine. Par nos propres efforts, nous mettrons à nu les secrets de la nature en nous. Nous serons notre propre révélation divine. La femme ne sera plus la lune. Ce jour-là, elle sera le soleil comme elle l'était au début, une personne authentique. Donc voilà le premier texte, plutôt fort de sens et plutôt très, très percutant, et finalement qui devient et qui est repris, très, pas forcément dans son ensemble, mais au moins le début. Au commencement, la femme était le soleil, maintenant elle est la lune. Ça, c'est une phrase qu'on revoit partout. Et d'ailleurs, cet article sera très vite traduit par un journal anglais à destination des Anglaises qui sont encore dans les mouvements féministes à l'époque. Donc le premier numéro retentissant de Saito apparaît en 1911, mais finalement le débat avec le public vient vraiment en 1912 autour d'une pièce d'Heinrich Ibsen qui s'appelle Une maison de poupées. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais cette pièce en fait est présentée à Tokyo en 1911 avec pour la première fois une actrice japonaise femme présente sur la scène pour jouer le rôle de Nora, l'héroïne. La présentation de cette scène engendre une explosion de débats et de polémiques autour de l'image de la femme nouvelle. Donc l'héroïne de la pièce, Nora, c'est une maîtresse de maison qui est dévouée à son époux. Elle apparaît comme une femme enfant qui se satisfait de son existence en toute simplicité et dont le bonheur réside dans l'amour qu'elle porte à son mari. Au moment où son mari tombe malade, Nora contrefait la signature de son père pour emprunter de l'argent, pour envoyer son mari en cure et pour tenter de le soigner. En apprenant son acte, son mari explose de colère et Nora découvre le vrai visage de son mari. Une fois l'annulation de la dette prononcée, son mari revient vers elle et lui demande pardon. Dans une esquisse de sa pièce en 1878, Ibsen écrivait « Elle a commis un faux, et c'est sa fierté, car elle l'a fait par amour pour son mari, afin de sauver sa vie. » Mais cet homme, avec toute sa loyauté banale, se tient sur le terrain de la loi et considère la question d'un œil masculin. Donc voilà l'objectif de la pièce. En fait, l'auteur dénonce l'enfermement des hommes dans leurs convictions et la place attitrée des femmes au foyer. Il aurait pu terminer cette pièce à ce moment-là. Pourtant, en fait, il continue. Et Nora rejette les excuses de son mari et part vivre sa vie elle-même, à sa façon, pour découvrir le monde. Donc toute l'effervescence autour du personnage de Nora a pour effet l'augmentation de contributions d'écrits des membres de Saito qui veulent exprimer leur talent littéraire mais qui veulent aussi se mettre du côté de cette femme nouvelle comme elle l'appelle malgré les nombreuses critiques qui pleuvent sur ce numéro de Saito. Dans un article intitulé « De la maison de poupée à la question sur la place des femmes », Ueno Yoko, donc une membre de Saito, disait la chose suivante. « Ah, je connais des centaines de millions de femmes qui endurent des traitements bien pires que ceux que Nora a connus. La conscience de soi de Nora est la conscience de soi des femmes du monde entier. Ou plutôt, je souhaite que ce soit cela. Au moment où Nora a pris conscience d'elle-même, c'est là que sa souffrance et son combat ont commencé. Nora a vraiment eu besoin d'une grande volonté. Le futur de Nora est notre futur à toutes. » Donc, cette pièce, malgré les polémiques, c'est un grand succès. Et ça offre pour Saito un moment d'effervescence et de reconnaissance sur la scène littéraire japonaise. Et le nombre de contributrices, finalement, augmente à ce moment-là. Par contre, alors que la visée initiale de Saito était apolitique, mais plutôt de promouvoir le génie des femmes par l'écriture et par la beauté de la langue, là, clairement, en prenant position pour Nora, le tournant se fait en devenant vraiment un manifeste politique. Et les censures du gouvernement japonais commencent, censurant successivement les numéros jusqu'à sa fin, pour à chaque fois un article dénommé. Itonoe arrive dans ce moment d'effervescence, finalement, puisqu'en fait, elle fuit son île natale, comme je vous le disais, elle était mariée, elle s'enfuit, grâce à l'argent de Raicho, la directrice de Saito, qui, suite à une lettre encore qu'elle a envoyée, lui paye son voyage pour revenir à Tokyo. Elle intègre alors le comité de rédaction et commence par son travail de rédactrice par un premier poème un peu candide et peu remarqué. Puis ensuite, elle s'intéresse au mariage forcé en parlant de son expérience vécue et commence vraiment à entamer un travail d'écriture politique et féministe. Et puis c'est à ce moment-là qu'apparaît dans Saito le concept de femme nouvelle qui va en fait être déployé sur plusieurs numéros et qui va dévoiler Itonoe comme une véritable militante. Donc ce terme, en fait, c'est le nom que donne la presse aux rédactrices de Saito, femme nouvelle, Atarashi Onna, qui est souvent teintée de mépris, un peu comme les bas bleus. Là, c'est la même chose. En fait, c'est quelque chose de vulgaire pour les caractériser. Qu'elles reprennent, pareil, à leur avantage. Et c'est une expression en fait qu'on trouve déjà aux États-Unis et en Europe et qui apparaît au Japon en 1910. On va vous lire encore avec Noliko un article de Noé, d'Ito Noé, qui est son premier article retentissant, qui s'appelle « La voix des femmes nouvelles » et qui paraît en janvier 1913.
新しい女は今までの女の歩み古した足跡をいつまでも探して歩いてはいかない。新しい女には新しい女の道がある。新しい女は多くの人々の行き止まったところより、さらに進んで新しい道を先導者としていく。新しい道は古き道をたどる人々、もしくは古き道を行き詰めた人々に未だ知られざる道である。またたどろうとする先導者にも初めての道である。新しい道はどこからどこに至る道なのかわからない。従って未知に伴う危険と恐怖がある。
Les femmes nouvelles ne marcheront pas éternellement à tâtons sur les traces des anciennes empruntées par leur aînée. Une voie nouvelle s'ouvre pour les femmes nouvelles. Elles vont aller au-delà des points où beaucoup de personnes se sont trouvées bloquées et elles vont ouvrir un nouveau chemin en tant que pionnières. Le nouveau chemin est une voie encore inconnue de celles qui ont emprunté les voies existantes ou celles qui se sont trouvées dans une impasse. Et les pionnières tentent de l'emprunter pour la première fois. On ne sait pas où commence ce chemin, ni où il mène. Aussi, les dangers et les terreurs inhérents à ce qui est inconnu les menacent.
いまだ知られざる道の先導者は事故の歩むべき道としては、道として、はびこるトゲある茨を切り払って進まねばならぬ。大いなる岩を切り崩して歩み、深山に迷い入ってさまよわねばならぬ。毒虫に刺され、上かわし峠を越え、断崖を穿ち、
Sur la voie encore inconnue que doivent emprunter les pionnières, elles doivent se frayer un chemin entre les ronces pleines d'épines qui entravent leur route. Elles doivent abattre d'énormes rochers pour avancer et se perdre dans des montagnes profondes. Piquées par des insectes venimeux, souffrant de la faim et de la soif, elles doivent franchir les cols, escalader des falaises et traverser des vallées en s'agrippant aux racines des plantes. Ce faisant, elles doivent contenir leurs hurlements, leurs prières et leurs larmes amères devant tant de souffrances.
知られざる未開の道花を永遠に目して長く長く無限に続く。しかも先導者は到底永遠に生きるべきものではない。彼は苦痛と戦い、苦痛と倒れて、ここより先へ進むことはできない。かくて追従者は、 先導者の力を認めて新しき足跡をたどってきたる。そして初めて先導者を賛美する。しかし先導者に新しかりし道、あるいは先導者の残せし足跡は開拓しつつ歩みきし、先導者にのみ新しい道である。 追従者にはすでに何らの意義もない古き道である。かくて倒れたる先導者に代わる先導者はさらにまた悲痛に生きつつ自己の新しき道を開拓しつつ歩いていく。
Ce chemin inexploré inconnu, pardon, sur la voie encore inconnue que doivent emprunter les pionnières, pardon, ce chemin inexploré inconnu s'étend de plus à l'infini dans un silence sans fin. En outre, les pionnières ne pourront pas suivre éternellement. Certaines s'écrouleront, vaincues par les souffrances, à force de lutter et ne pourront plus avancer au-delà. Ainsi, celles qui suivent, reconnaissant la force de leurs prédécesseurs, emprunteront ces nouvelles traces. Et pour la première fois, elles vanteront les louanges de celles qui les ont précédées. Mais cette voie qui était neuve pour les pionnières, où les traces qu'elles ont laissées n'étaient nouvelles que pour celles qui les avaient ouvertes et qui les avaient foulées, ces voies sont anciennes et n'ont déjà plus de sens pour celles qui suivent. Ainsi, d'autres pionnières vont à leur tour emprunter en défrichant leur propre voie nouvelle, dans les larmes et la souffrance, pour prendre la place de celles qui sont tombées.
新しきという意義は残り少数の先導者にのみ占有せられるべき言葉である。悲痛に生き悲痛に死する誠に己を知り己を信じ自己の道を開拓して進む人にのみ占有さるべき言葉である。何らの意義なきのんきなる追従者の間には絶対に許さるべき言葉でない。
Le terme nouveau ne peut être utilisé que par les pionnières en petit nombre. C'est un terme qui ne doit pas être utilisé par celles qui vivent et qui meurent dans les larmes et la souffrance, qui ne connaissent et qui ont confiance en elles et qui avancent sur le chemin qu'elles tracent elles-mêmes. Ce n'est pas un terme dont on peut autoriser l'usage à des suiveuses nonchalantes sans aucune raison.
先導者はまず確固たる自信である、次に力である、次に勇気である。思考して自身の生命に対する自身の責任である。先導者はいかなる場合にも自分の仕事に他人の容託を許さない。また追従者を相手にしない。追従者はまた先導者の一切に対する批判者の資格を有しない。権利がない。追従者はただ先導者に感謝しつつその足跡をたどるより他はない。彼らはおのずから進むことを知らない。彼らは先導者の前身に倣ってようやくその足跡をたどって進むことができるのみだ。
Les pionnières, c'est d'abord une solide confiance en soi. C'est ensuite de la force, et puis c'est du courage. C'est ainsi la responsabilité face à sa propre vie. Les pionnières ne permettent en aucun cas que l'on se mêle de leur travail. Elles ne s'intéressent pas non plus à celles qui les suivent. Celles qui les suivent n'ont aucun statut pour les critiquer en quoi que ce soit. Elles n'ont aucun droit. Elles n'ont qu'à marcher sur les traces des pionnières avec gratitude. Elles ne savent pas avancer par elles-mêmes. Elles ne peuvent guère qu'avancer sur les traces des pionnières en se servant de leur exemple.
先導者はまず何よりも自身の内部の充実を要する。かくてあとおもむろにその充実せる努める勇気と、しかして動かざる自信と、自身に対する責任を持って立つべきである。
Les pionnières ont d'abord besoin, plus que de tout, de leur plénitude intérieure. C'est ainsi qu'elles peuvent tranquillement se lever, munies de leur force, épanouies de leur courage, de leur confiance inébranlable en elles-mêmes et de leur responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes.
先導者は開拓しつつ進む間には世俗的のいわゆる慰安などはいささかもない。終始濁りである、そして徹頭徹尾苦しみである、もだえである、不安である、時としては深い絶望も襲う。ただ口をついて出るものは自己に対する熱烈な祈祷の絶叫のみである。故に幸福、慰安、同情を求む人は先導者たることはできない。先導者たるべき人は確たる自己に生くる強き人でなくてはならぬ。先導者としての新しき女の道は必教、苦しき努力の連鎖に他ならないのではあるまいか。
Les pionnières ne reçoivent pas le moindre réconfort grossier pendant qu'elles avancent en défrichant leur voie. Elles sont seules, du début à la fin. Elles ne connaissent que la souffrance, c'est une torture, c'est de l'angoisse. Parfois, un profond désespoir les saisit. Ne sortent de leur bouche que des cris de prière fervente vis-à-vis d'elles-mêmes. Aussi, celles qui cherchent le bonheur et le réconfort ne peuvent pas être pionnières. Pour être pionnière, il faut être une personne forte qui vit de son moi solide. La voie des femmes nouvelles pionnières n'est-elle pas finalement qu'une suite d'efforts douloureux ? Merci Noliko. Donc on se rend compte en fait de la conception du féminisme de Noé, qui est finalement une suite, qui est une lutte violente, pleine de souffrances, et qui représente un véritable sacrifice pour les pionnières, qu'elle appelle, comme elle les appelle. Et donc le féminisme représente une bataille longue et douloureuse. pour un peu communiquer sur cette notion du féminisme auprès d'un public plus large qui n'aurait pas accès aux journaux de par la censure ou de par le prix qu'il coûte. Les contributrices de Saitosha décident d'organiser une grande conférence publique sur la femme nouvelle pour débattre avec des hommes et des femmes de cette notion. Ça a lieu le 15 février 1913 et ça a un grand succès puisque ça fait salle comble. Itonoé intervient et témoigne de ses récentes impressions et, d'après les écrits, passionne l'auditoire. Des hommes interviennent également, c'est pas comme le magazine fermé aux hommes, là les hommes interviennent et donnent leur avis sur ce mouvement féministe qu'ils approuvent. Les comptes rendus qui sont faits de cette conférence sont plutôt positifs. Les meetings politiques à l'époque étaient interdits, donc ça montre le risque en fait qu'ont pris les membres de Saito en s'exposant ainsi. Par contre, des critiques évidemment se sont fait entendre, et notamment par Tsuda Umeko, qu'on a vu au début, la japonaise partie étudiée en Amérique et qui a ouvert son école, puisqu'elle dit à ses élèves, puisque beaucoup d'élèves du collège Tsuda étaient partis à cette conférence, elle dit la chose suivante. Les membres de Saitosha ont des idées dangereuses. Elles sont le diable. Aucune étudiante de cet établissement ne devrait être induite en erreur par une si dangereuse association. Cette critique n'est pas la seule suite à cette conférence. Et d'ailleurs, une association est créée en réponse à cette conférence qui s'appelle Shinshin Fuchinkai, la véritable association des femmes nouvelles, sous la bannière anti-Saito. Une de ses fondatrices disait... Comment pouvons-nous laisser ce groupe honteux encourager le divorce et l'adultère sans réagir ? Nous avons décidé d'établir une organisation de femmes avec de nouvelles idées afin de tenir une conférence publique ainsi que de publier mensuellement une revue. Bon, cette association n'aura que peu d'influence, mais ça montre tout de même que même au sein des femmes, les avis divergeaient énormément quant à Saito. Plus le temps passe et plus les écrits d'Itonoé deviennent critiques, quant à l'éducation des femmes et à la condition féminine, elle prend par exemple la défense des prostituées, condamnant en fait leur situation dans le Japon actuel. Elle explique aussi ses pérégrinations amoureuses et en fait part dans un article qui sera très vivement critiqué, puisqu'on la caractérisera de femme légère et infidèle. Et du coup, ça participera à son humiliation, mais qui ne fera que renforcer finalement ses idées et ses écrits en les rendant encore plus virulents. Elle critique l'institution du mariage, malgré sa notion de l'amour qui reste très forte tout au long de sa vie. Elle critique l'institution mariage telle qu'elle est établie à cette époque. Et tous ces écrits font qu'en fait... le ministère de l'Éducation décide d'interdire en 1913 les revues féministes qui émettent un avis négatif face à l'adage « bonne épouse, mère avisée ». Cinq jours après cette décision, les membres de Saito sont convoqués au commissariat de police, au bureau de la censure, puisqu'apparemment elles ont porté atteinte aux vertus de la femme. Tous les articles sont cités, mais en premier celui de Hiratsuka Raicho qui s'appelle « Aux femmes de ce monde ». C'est le début des dissensions au sein de Saito, puisque le tournant est vraiment pris politiquement et les femmes s'engagent puisqu'elles sont condamnées par la police. Et une vague de départ s'opère dans Saito, qui à son début finalement comptait beaucoup de filles de familles bourgeoises qui voulaient s'émanciper en écrivant et qui voulaient produire des écrits lus par un plus grand nombre, mais pas du tout s'engager politiquement dans une lutte. En parallèle de ces idées féministes qui émergent, des groupes anarchistes organisent en 1913, la même année, une réunion en l'honneur de l'auteure américaine Emma Goldman, que vous voyez derrière. Grâce à ce rassemblement, Noé réussit à se procurer un ouvrage qui s'appelle Anarchism and Other Essays, qu'elle décide de traduire en anglais, en japonais, de l'anglais au japonais. Et ça sera la première à traduire cet auteur en japonais, permettant donc au réseau anarchiste ne parlant pas anglais de pouvoir le lire. Emma Goldman, pour vous resituer, elle est née en 1869 en Lituanie, au sein d'une famille juive orthodoxe. Elle se passionne très tôt pour les études, comme Noé, mais les difficultés de sa famille l'obligent à aller travailler à l'usine en 1882. 4 ans plus tard, en 1886, elle arrive à se rendre à New York, Et elle rejoint directement le mouvement anarchiste après le massacre de High Market Square. Rapidement, elle devient une écrivaine et conférencière reconnue et une figure du mouvement anarchiste et féministe aux États-Unis. Donc pour Noé, ça a été une véritable révélation littéraire et politique de lire Emma Goldman. Et à la suite, tous ses écrits seront teintés des idées de cette anarchiste. Elle reprend notamment l'idée de Goldman du féminisme superficiel en le transposant au Japon, ce qui se caractériserait par aller dans des izakaya, c'est-à-dire aller boire de l'alcool, ou porter une tenue d'homme. Elle appelle pour ça, elle, du féminisme superficiel. À partir de 1914, de nombreux changements s'opèrent dans la vie d'Ito Noé. Elle accouche de son premier enfant avec Tsuji Jun, son professeur d'anglais dont on parlait tout à l'heure. Et ça change radicalement son rythme et ses préoccupations, pardon, puisqu'elle doit subvenir aux besoins de son enfant et plus seulement aux siens. Elle commence aussi à développer, avec la rencontre d'Osugi Sakae, des idées socialistes. Et notamment, elle écrit un article qui s'appelle « La conscience d'être humain »,« Ningen Toyu Ishiki ». Je sentais que la moindre question que je me posais rencontrait inopinément quelque chose d'obscur et de gigantesque. Il s'agissait là des doutes concernant les innombrables éléments embrassés par cette gigantesque chose, société. En écrivant cela, elle sait pertinemment qu'elle s'expose à une censure, puisqu'à l'époque, le fait d'être socialiste est condamné, et l'utilisation du terme « société » défie ouvertement, finalement, les autorités. Cet article, en fait, provoque une deuxième vague de départ, en 1915, des membres de Seito, et finalement, Iratsuka Raicho lui donne les pleins pouvoirs sur Seito et sur la rédaction, et quitte elle-même la revue. Donc, Seito est transféré au domicile de Noé, et pour être en accord, on va dire, avec ses idées qui deviennent de plus en plus socialistes, elle décide de retirer toute publicité de sa revue, enlevant donc une grosse partie de fonds et de financement en enlevant ses publicités. Elle décide aussi d'une nouvelle ligne éditoriale, et le premier numéro qu'elle publie commence de la façon suivante. Désormais, Saito ne possédera plus aucune règle, aucune ligne éditoriale, aucun principe, aucune doctrine. Ceux qui veulent une doctrine, ceux qui ne peuvent pas se passer des règles, peuvent chacun les créer. Je propose simplement une revue n'ayant ni doctrine, ni ligne éditoriale, ni règles à toutes les femmes. Donc là, on passe vraiment du féminisme à l'anarchisme, pardon, et ce qui provoque, donc, comme je vous le disais, une vague de départ, et elle s'implique dans une vie politique beaucoup plus fortement. Donc Osugi Sakae, je ne sais pas pour ceux qui s'intéressent à l'anarchisme si vous le connaissez, mais c'est un des anarchistes les plus connus au Japon, et il a une place dans la vie d'Ito Noé cruciale. Donc je vous parle rapidement de lui. Il est né 10 ans avant elle, donc en 1885, et c'est le fils aîné d'un lieutenant de la garde impériale. Son enfance est relativement mouvementée et violente, puisqu'on a des rapports de batailles entre camarades, voire même des massacres, c'est un peu exagéré, mais il va jusqu'à tuer des chiens et des chats comme passe-temps. Il entre à l'école de Nagoya à 14 ans, mais s'en fait expulser, parce qu'il se bat au couteau avec un autre étudiant et en sort gravement blessé. À la même époque, il rentre en contact avec des cercles socialistes et assiste régulièrement à des conférences sur la guerre de Russie, qui est déclarée contre le Japon en 1904. Quelques temps plus tard, il rejoint la Société du Peuple, Heimincha, qui est créée par Sakai Toshihiko, dont il épouse la belle-sœur. Il est emprisonné à partir de ce moment-là, et sa vie, en fait, va être une suite d'enfermements en prison, soit pour des actes terroriste, soit pour des écrits un peu trop socialistes. Comme Osugi prône la libération de l'individu en général, il se retrouve rapidement proche des pensées féministes, puisque la libération de l'individu passe aussi par la libération des femmes. Et c'est comme ça qu'il rencontre Noé. Il partage également leur passion pour Emma Goldman, et dans beaucoup d'articles de journaux, Osugi Sakae encense le travail de Noé pour cette traduction. À partir de ce moment-là, la vie de Noé devient de plus en plus pénible, puisqu'elle découvre l'adultère de son mari, Tsuji Jun, avec sa cousine Chiyoko, la cousine dont on suit depuis le début et qui était avec elle à l'école. Et elle accouche de son deuxième enfant quelques mois plus tard. Au même moment, de nouveaux débats secouent Saito violemment, notamment à propos de l'avortement et de la contraception, puisque Noé lance le sujet, repris par beaucoup de féministes, mais se trouve même au sein de la revue beaucoup de dissensions. Et en parallèle, Noé s'engage dans un combat totalement différent, celui des habitants de Yanaka pour garder leurs terres. Les habitants de Yanaka, en fait, se sont fait spolier leurs terres par l'État, qui voulait gérer la mine de cuivre d'Ashio, qui a été une des plus grandes catastrophes écologiques au Japon. Donc, l'injustice en fait, de la situation l'a fait se créer un mouvement socialiste pour essayer de protéger ses habitants. Combat qu'elle va mener avec Osugi Sakae. Elle décide d'arrêter Saito à ce moment-là, par un manque de temps, d'argent et de soutien, puisqu'elle se retrouve un peu seule. Et elle décide aussi de quitter le domicile conjugal et de quitter Tsujijun. Rapidement, elle se met avec Osugi Sakae et ils fondent ensemble une espèce de conception de l'amour libre. Alors qui les pousse à habiter séparément, mais rapidement les conditions économiques font qu'ils vont habiter ensemble. Osugi Sakae, je vous l'ai dit tout à l'heure, était déjà mariée et avait aussi une maîtresse, une journaliste connue qui s'appelle Kamichika Ichiko, qui était journaliste pour le Tokyo Nichi Shimbun, qui est un gros journal japonais. Pour faire vivre cette relation à quatre, un pacte de trois règles est conclu entre les quatre: indépendance économique, résidence individuelle et liberté de tous les membres. Malgré les efforts de chacun, il est rompu, puisque Noé et la femme légale d'Osugi sont la première maman d'un nourrisson et l'autre femme au foyer. Donc économiquement, elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et puis en plus, le côté passionnel de la relation qu'entretiennent Osugi et Noé fait qu'ils se voient trop souvent pour le pacte. Et donc ça conduit tout ça à l'affaire Ikage, du nom de la maison de thé où l'incident s'est produit. Donc la troisième personne, la journaliste Kamichika Ichiko, poignarde par jalousie Osugi Sakae à la gorge en le blessant gravement. Alors cet incident est retentissant dans les médias, on en parle démesurément. La journaliste est condamnée à 4 ans de prison, mais les désagréments ne s'arrêtent pas là. En fait, la médiatisation conduit à l'annulation du mariage de la sœur d'Osugi Sakae, qui devait se marier très prochainement et qui conduit à son suicide. Et ensuite, Ito Noé se fait rouer de coups par un ami de la journaliste à l'hôpital en allant rendre visite à Osugi Sakae. Bon, après cette sombre affaire, plus aucune entrave n'est présente pour empêcher le couple d'emménager ensemble, d'écrire ensemble et d'essayer de trouver un endroit reculé pour échapper au harcèlement des journalistes. En 1917, ils ont leur premier enfant, Mako. Mako, ça veut dire « enfant du démon », donc le nom est original. Mais d'après les correspondances établies entre Osugi et sa famille, il attachait beaucoup d'importance à cet enfant et... beaucoup de photos, en fait, sont disponibles avec Mako. Et c'était une enfant pour laquelle ils ont eu vraiment... ils ont porté beaucoup d'amour. Malgré leur manque d'argent, ils hébergent chez eux un anarchiste de renom. Et cet anarchiste écrit beaucoup sur le couple qui le fascine, finalement. Parce que, d'après lui, Osugi Sakae aide à la maison, change les couches des enfants... et est très attentif envers Noé, ce qui, pour l'époque, doit paraître original. Et c'est à partir de ce moment-là que le couple commence à être surveillé en permanence par la police. Je ne sais pas si vous avez vu le film en introduction, mais à un moment, ils en parlent. Et ce qui va les pousser en fait, à déménager à plusieurs reprises pour essayer d'échapper à cette surveillance policière. Ils continuent leurs écrits, puisqu'ils fondent en 1919... Rodo Undo, le mouvement ouvrier. Au début du XXe siècle, le Japon connaît une industrialisation sans précédent, un peu comme partout dans le monde, et un essor économique spectaculaire. Et donc les usines qui naissent embauchent des Japonais et des Japonaises, et Noé se prend d'affection pour ces ouvrières, en fait, qui, à l'image un peu des mineurs, ont des conditions de travail très pénibles. Elles ont des mauvais traitements, elles sont payées une misère et elles travaillent sans réglementation de temps de travail. ce qui engendre un nombre conséquent d'accidents du travail et de morts au travail. C'est pour ça que Noé crée Seki Rankai, donc qui est la première société féministe socialiste au Japon, qui s'appelle, enfin, qu'on peut traduire par Société de la Vague Rouge. En parallèle, donc, Itonoé et Osugi ont des enfants. Osugi est emprisonnée constamment à cause de ses écrits, donc elle se retrouve finalement cantonnée un peu à ce qu'elle déplorait dans beaucoup d'écrits, être femme au foyer. Puisque la famille s'agrandit après Mako, avec l'arrivée d'Emma, donc en hommage à Emma Golding, puis une autre Emma, puisque la précédente a été adoptée et rebaptisée, puis Louise, en référence à Louise Michel, puis Nestor, en l'honneur d'un commandant d'une armée de paysans révolutionnaires en Ukraine. Donc l'originalité des prénoms pour l'époque est flagrante, mais montre l'ouverture du couple sur les mouvements anarchistes, féministes, socialistes dans le monde entier. Cette époque correspond aussi à la progression de l'activité militante et notamment internationale d'Osugi, puisqu'il assiste à de nombreux congrès socialistes partout dans le monde. Donc il va en France en 1923, avec de faux papiers, pour rejoindre le congrès international des anarchistes à Berlin où il est convié. Bon, cependant, il est repéré par les policiers français lors d'une intervention publique le 1er mai à Saint-Denis. Il passe quelques temps à la prison de la santé, puis il est expulsé de France. Donc je vous ai mis là les documents que j'ai retrouvés dans les archives liés à son expulsion, émise par la préfecture de police. D'après les documents officiels qu'on retrouve, il a tenté de se faire passer pour un ressortissant chinois en utilisant un nom à la sonorité de ce pays, Tung Cheng Tang. Il rentre au Japon en juillet, sans jamais avoir pu atteindre Berlin et le Congrès international des anarchistes. Et pendant ce temps, Noé poursuit son travail à la Seki Rankai, donc la Société de la Vague Rouge, et continue les rédactions pour Rodo Undo. On arrive en 1923, donc qui est la dernière année pour Itonoé. À ce moment-là, quand Osugi rentre de France, ils annoncent à leur famille leur volonté d'arrêter leur militantisme et veulent se consacrer à leur famille. Mais le 1er septembre 1923, un gigantesque tremblement de terre a lieu dans la région de Tokyo et Yokohama. Et ça leur laisse pas vraiment le temps de vivre cette nouvelle vie paisible. Donc en fait, ce tremblement de terre dévaste totalement la région. Le gouvernement, pour essayer de régir à peu près la situation, impose une loi martiale. C'est-à-dire que l'armée devient le pouvoir en place dans cette région. Et le gouvernement, qui proclame cette loi, provoque alors des massacres au sein des minorités chinoises, coréennes, entraîne en fait des centaines de meurtres. Les Chinois et les Coréens ne sont pas les seuls à se faire assassiner, puisqu'une vague d'assassinats aussi auprès des socialistes et des anarchistes sont effectués. On n'a pas le nombre de morts exact, mais les opposants au régime ont essayé d'établir un chiffre qui est forcément démenti par le gouvernement. Donc le 16 septembre, le tremblement de terre a eu lieu le 1er septembre. Le 16 septembre, alors qu'Itonoé et Osugi Sakae se promènent dans la région pour essayer de prendre des nouvelles de leur famille, ils sont arrêtés par le lieutenant Amakasu Masahiko. Ils sont amenés en prison. Ils sont battus et étranglés. Ils se trouvaient donc avec leur neveu de 7 ans, qui lui aussi est battu et étranglé. D'après les archives, le premier à subir ce traitement, c'est Osugi. Puis quelques heures plus tard, Noé et enfin l'enfant. Le 18 septembre, un journal de gauche titre « Osugi, sa femme et un enfant fait prisonnier par la police militaire ». La rumeur est déjà lancée, mais le triple assassinat perpétré par le commandant Amakasu reste secret pendant quelques jours, jusqu'à ce que les corps soient découverts par d'autres militants dans un puits. Malgré donc un relatif retrait finalement du mouvement anarchiste d'Osugi et Sakae de façon très récente, leur mort provoque une indignation nationale au-delà des sphères socialistes et anarchistes. Il y a plus... Alors déjà, c'est le fait d'avoir tué un enfant qui émeut beaucoup, et une femme. Alors le débat est lancé, est-ce que Noé a été tuée parce qu'elle est la femme d'un anarchiste ou est-ce qu'elle est... parce qu'elle est elle-même anarchiste ? Bon, la presse dira que c'est parce que c'est une femme d'anarchiste. Elle est considérée finalement comme une victime collatérale, au même titre que le jeune neveu. Bon, dans les journaux, le meurtre du couple fait toutes les unes. Mais le journal de Tokyo, qui est régi par la loi martiale, est censuré directement et renvoie alors l'article à Osaka, donc qui est une autre région du Japon qui est plus au sud, pour que la nouvelle puisse paraître. Et dès le 20 septembre, la nouvelle de l'assassinat est publiée et diffusée partout au Japon. Des éditions spéciales sont même consacrées à ce meurtre dans les journaux. Et pourtant, les journalistes auraient pu se lasser devant toute la censure, mais l'événement continue d'être relaté. Les funérailles d'Ito Noé et d'Osugi Sakae sont pleines de monde, de journalistes, de familles et de militants et camarades, ce qui gêne beaucoup finalement le gouvernement, qui essaie de censurer tous les journaux qui publient les photos que je vous ai affichées là. Donc le journal de Tokyo doit noircir la photo pour ne pas montrer le monde qu'il y avait à l'enterrement. Et en fait, très rapidement, la diffusion est même internationale, puisqu'on retrouve dans l'Humanité, en décembre, donc 2 mois plus tard, un article qui s'appelle « Les circonstances odieuses de l'assassinat d'Osugi ». Bon, c'est encore écrit juste d'Osugi, mais l'article est là quand même. Donc l'article évidemment condamne le traitement inhumain et défend la cause des militants. En ce qui concerne le commandant Amakasu, qui a donc tué les trois personnes, il est condamné à 10 ans de travaux forcés, mais finalement il n'en effectuera que 3. Ce qui pousse la police japonaise à le condamner, c'est l'assassinat du jeune enfant et non pas l'assassinat des deux anarchistes. Son jugement a lieu en novembre. Et donc les sanctions paraissent dans un premier temps sévères, mais finalement sont allégées quand l'événement se tasse un peu et l'effervescence autour se tasse un peu. C'est 53 ans après l'assassinat d'Ito Noé et d'Osugi Sakae que l'Asahi Shimbun dévoile officiellement les causes exactes de la mort, confirmant ainsi les rumeurs. Ils ont été battus avant de mourir. Ces nouveaux éléments sont disponibles grâce à 3 certificats de décès qui sont mis au jour par la possibilité de consulter les archives policières de l'époque. On se rend compte en fait que toute l'effervescence autour vient minimiser totalement la place d'Ito Noé finalement dans cet assassinat. Alors que, avec tout ce que je vous ai dit et tout ce que j'ai pu vous raconter de cette personne, on se rend compte que c'est un véritable parcours du combattant qu'elle a effectué, qu'elle relève d'une véritable construction de rencontres, d'idées, d'événements et de personnes. Et cette féministe, en fait, est vraiment l'objet d'une histoire croisée transnationale. Pour conclure, elle s'est inspirée des écrits d'Emma Goldman, elle a rencontré une poétesse, Yosano Akiko. Elle a enseigné l'anglais et a appris l'anglais avec son mari Tsuji Jun. Elle a eu une relation avec un anarchiste de premier plan qui s'appelle Osugi Sakae. Et enfin, elle a collaboré dans un journal féministe avec Hiratsuka Raicho, un journal de premier plan. Et donc, ça fait d'elle une figure contestataire de premier plan. Pour décrire Ito Noé, Hiratsuka Raicho, donc la féministe qui a créé Saito, disait la chose suivante. Noé était vraiment une personne honnête, pure, naturelle, candide, mignonne, comme une petite fille. Et tout à la fois arrogante, têtue, égoïste, irresponsable, effrontée, insolente, laissant étrangement dans le cœur des gens ses impressions tout à fait contradictoires. Pour vous citer une autre chose qui a été dite à propos de Noé, et notamment par une spécialiste de l'ère Taisho, Hane Misio, Ito était une des jeunes femmes les plus remarquables de cette période. Elle possédait un esprit indépendant, individualiste et iconoclaste. Si l'une des caractéristiques distinctives des femmes nouvelles était le fait d'affirmer son individualité et développer sa personnalité au maximum, aucun exemple ne pourrait être mieux trouvé que celui d'Ito Noé. Tous ces éléments biographiques que j'ai pu vous énoncer me permettent ou nous permettent intimement de penser que l'assassinat d'Itonoé n'était pas un dommage collatéral, et ne venait pas d'un hasard. Parce qu'au moment du tremblement de terre du Kanto, elle avait déjà écrit beaucoup de choses engagées, et ils étaient déjà trop nombreux. Sa vie était déjà trop marginale puisqu'elle avait été mariée 3 fois, et ses idées politiques trop dangereuses pour être tolérées par le gouvernement. À seulement 28 ans, donc l'âge où elle a été assassinée, l'accomplissement d'Itonoé était déjà remarquable. Donc il paraît cohérent, selon moi, de dire que ce 16 septembre 1923, la police a bien assassiné un couple d'anarchistes et pas la femme d'Osugi Sakae. La dimension internationale qui ressort de cette biographie nous permet de nous demander si c'est une exception de son époque ou si on trouve dans le monde des destins un peu similaires. A priori non. J'ai l'exemple de Germaine Berton, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une anarchiste féministe qui... au début du 20e siècle, dans un contexte de développement d'une extrême gauche très active en France, elle suit aussi une trajectoire atypique. Elle est née en 1902 à Puteaux, et c'est une ouvrière qui prend très vite part aux actions syndicalistes de son usine. Le 22 janvier 1923, elle assassine le secrétaire de l'Action française, Marius Plateau, lui tirant dessus avec une arme à feu. Plus tard, elle dira que les cibles qu'elle voulait toucher, c'était Charles Maurras ou Léon Daudet, mais suite à une agression verbale de Marius Plateau, l'attentat fut dirigé contre lui. Son procès s'achève le 24 décembre 1924, et bien qu'ayant revendiqué le meurtre, elle est acquittée. Donc... Ce qui frappe dans ces deux biographies, donc celle de Noé et celle de Germaine Berton, c'est la réutilisation des mêmes références principales, et notamment Emma Goldman, qui les inspire toutes deux profondément. L'année 1923 est cruciale pour ces deux femmes, puisque l'une est assassinée pour ses idées, et l'autre condamnée par la justice. Tout comme la vie et l'assassinat d'Itonoé, l'attentat et le procès de Germaine Berton furent extrêmement médiatisés. Et cet exemple montre bien l'ancrage et l'inscription de la trajectoire d'Itonoé dans un mouvement finalement beaucoup plus vaste. La seule mise en lumière qu'Itonoé a pu connaître à la suite de son assassinat, c'est dans les années 60 et 70, en accompagnant les revendications étudiantes et ouvrières. On reprend les idées d'Osugi Sakae et d'Itonoé dans la vague contestataire des étudiants et des ouvriers qui correspond un peu à notre mai 68, sauf qu'au Japon, ça commence plus tôt et ça termine plus tard. Et c'est beaucoup plus violent et radical. Et dans ce contexte, sort le film qui passait en début de séance, qui s'appelle un film de Yoshida Kiju, qui s'appelle Heroes plus Massacre, qui est un peu un film de la nouvelle vague japonaise, qui retrace la vie d'Osugi Sakae, et donc qui expose sa relation avec les 3 femmes dont je vous ai parlé, la journaliste, sa femme principale et Itonoé. Et aussi leur assassinat par le commandant Amakasu. Le film a été, par la pression étatique et du grand public, a été raccourci pour supprimer certaines scènes, mais aujourd'hui on le trouve en version complète. Je vais vous lire pour terminer et pour conclure un extrait du réalisateur. Voilà ce qu'il disait à propos de l'assassinat d'Osugi Sakae et d'Itonoé. Si l'État avait simplement voulu réprimer les actes politiques de l'anarchiste Osugi et de ses camarades, il lui aurait suffi de les arrêter et de les emprisonner. Mais en réalité, l'État a voulu les massacrer, les anéantir totalement. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de la liberté d'imagination qu'ils exprimaient, une imagination destructive qui niait tous les éléments fondamentaux de l'État, mariage, famille, biens privés, etc., et finalement l'État lui-même. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions,
Vous avez évoqué la défense des prostituées.
Oui.
Est-ce que vous mettez les geishas dans cette catégorie ou pas ?
Non. Les geishas, à aucun moment, sont considérées dans la même case que les prostituées. puisqu'elles ont un art. En fait, geisha, ça veut dire femme d'art. Et du coup, non, elles ne sont pas du tout. Et en fait, ça correspond tellement à une classe au-dessus et noble, et enfin bourgeoise en tout cas, que ça ne rentre pas dans les revendications qui ont pu être émises. Parce que leur statut est beaucoup plus confortable. Elles vivent dans une maison, elles pratiquent un art qui est reconnu, et elles sont vraiment mieux considérées que des prostituées. Et puis, ça n'est pas des prostituées, en fait. Voilà.
Les geishas, ça pose quand même la question de la place de la femme, je sais pas.
Ah oui, bah.
C'est quand même une question aussi.
Complètement, bah c'est. Mais comme je le disais en introduction, en fait, c'est difficile de savoir quelle est la part de machisme ou de culture. Ou... Parce qu'en fait, en allant au Japon, on ressent des choses, on a l'impression que les droits sont moins développés, mais en même temps, elles ont tellement une place importante et privilégiée dans le foyer. Que c'est difficile de dire que c'est machiste, en fait. Donc c'est très contradictoire, et moi-même, j'arrive pas à répondre à la question de si, voilà, c'est un pays... Alors, les chiffres le montrent quand même, que les femmes sont beaucoup moins présentes en politique, beaucoup moins chefs d'entreprise, ça, c'est indéniable. Mais finalement, la considération qu'ont les hommes des femmes, c'est très difficile à percevoir, et j'arrive pas à me rendre compte s'ils les perçoivent mal ou pas, et j'en suis pas sûre, en fait. Je pense que c'est tellement établi qu'on se pose pas la question là-bas, mais que c'est pas une, on les dénigre pas pour autant, quoi. Après, il y a, je sais pas, Noliko, si t'as quelque chose à dire là-dessus, sur la place des femmes, comme toi tu es japonaise.
Comme tu cumules.
Est-ce que tu sens une différence entre hommes et femmes au Japon ?
Non.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir la même place qu'un homme au Japon ?
Maintenant ?
Toi ?
Protégée ?
Maintenant. Maintenant, oui.
Non ?
Non.
Non.
Tu penses avoir moins de possibilités ?
Oui.
Bon. Voilà.
Les femmes, elles veulent suivre sur les hommes.
Ah, d'accord. Elles ne sont pas lanceuses d'idées ou pionnières, comme on parlait. D'accord. Je réutilise.
Une question.
Oui.
Deux questions. La première, c'est est-ce que le phénomène un peu de ce qu'on appelle au Japon l'enfant roi, est-ce que ça peut jouer sur la condition de la femme ? Pardon, la femme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est cette idée que dans un couple, une fois que l'enfant est né, en fait, quasiment la vie entière du couple se tourne, s'organise à travers l'enfant. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a toujours un certain problème de reconnaissance de la mère célibataire vis-à-vis de la société qui, je sais, encore aujourd'hui, vraiment, c'est très mal perçu pour une femme d'avoir un enfant hors mariage, et même pour sa vie, en fait, et même pour celle de son enfant, d'être toujours, que ce soit sur le travail, etc.
Des mamans célibataires au Japon, en fait, j'en ai pas rencontré. Peut-être parce qu'elles se remarient derrière, ou peut-être parce qu'à partir du moment où on a un enfant, on divorce plus. Mais je sais qu'une pression, une pression familiale est encore très présente sur l'âge du mariage, et qu'il faut se marier avant 30 ans. Et que une fois marié et avec des enfants, on reste, finalement, c'est ça. J'ai des amis que j'ai rencontrés qui se sont mariés depuis mon voyage en 2014, et qui en fait ont arrêté de travailler, alors que à l'époque on sortait, elles travaillaient. Enfin, ça me paraissait pas aller de soi. Elles avaient l'air indépendantes comme ça, et finalement elles se sont arrêtées. Alors du coup, la question de la mère célibataire, je l'ai pas traitée, et j'ai pas. De ce que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Par contre, si c'est mal vu, Noliko, est-ce que tu sais si une maman célibataire qui divorce, elle est mal vue ? Et elle se remarie, ou est-ce qu'elle cherche à avoir un nouveau mari ? Oui ?
Oui.
Ouais. Voilà.
C'est un sujet qui a été traité dans quelques œuvres assez contemporaines, que ce soit le livre, mais même les mangas, par exemple,
Ah, on en parle. Et pour l'enfant roi, c'est pas un concept que en fait, je rattachais plus ça à la Chine, l'enfant roi. Parce qu'au Japon, déjà, un enfant, ils sont tellement en manque de natalité qu'on ne prône pas un enfant, plutôt on essaie de les motiver à en faire plusieurs, puisque le vieillissement de la population est assez considérable. Du coup, je ne sais pas non plus pour l'enfant roi, je suis désolée.
Ça dépend de la définition qu'on donne à l'enfant roi. Moi, toi, l'approche que j'ai des Japonais, ils sont extrêmement attentifs à l'éducation, c'est une priorité. Le développement, l'équilibre, tout ça, c'est vrai. Et j'avais pas ça enfant roi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est.
Oui, ça c'est certain qu'en termes d'éducation. Ah, pardon.
En Corée,
en Corée
ou en Chine.
Et en Chine, d'accord.
Tu voulais contester ça sur le niveau de. Tu n'étais pas d'accord.
Ah non, non.
En fait, sur l'idée que. Non, je vais parler à ta place. Quelque chose a beaucoup changé, qu'il y a une évolution qui est parallèle avec l'Europe et puis le Japon évolue au fur et à mesure en même temps et que. Effectivement, on peut avoir des idées du Japon d'il y a 20 ans qui sont passées aujourd'hui.
Ah oui, bah heureusement que le Japon n'est plus comme celui que j'ai présenté des années 20.
Hein. Les mêmes. On peut constater, nous, moi je vois bien aussi que, par exemple, par rapport aux femmes célibataires, il y a l'ONM a été un des seuls endroits où on accueillait les femmes de toute la France pour les cacher quand elles étaient enceintes sans enfants. Et ça date, c'est pas vieux du tout, puisque moi j'ai une très bonne amie qui est née dans ce cadre-là, cachée, etc. Donc c'est donc il y a 50 ans ça se pratiquait encore. Hein. Donc on peut aussi avoir, on est parfois un peu piégé par le monde dans lequel on vit, et puis c'est pas si loin que ça, 50 ans.
Non, c'est certain. Et bon, là, j'ai pas parlé de la France, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire en termes de droits des femmes. Hein, mais bon, là, l'objectif, c'était de parler du Japon. Mais c'est vrai que. Et aujourd'hui, on parlait des mères célibataires. Je connais pas, moi, assez la situation. J'ai étudié d'un point de vue historique les années 20. Et aujourd'hui, je m'y suis juste rendue personnellement. Et les quelques exemples que je peux avoir reflètent pas forcément la réalité. Et en plus, j'étais à Tokyo, ce qui est complètement différent de la campagne en termes de façon de vivre. Donc, oui.
Un des pays qui s'est modernisé sans s'être occidentalisé. Et pourtant, et c'est assez vrai sur plein de domaines, pourtant, ce que vous avez dit, on ressent vraiment une grosse influence occidentale sur le féminisme japonais. Est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce qu'ils ont inventé leur propre féminisme japonais qui finalement s'adapte à leur société? Ou alors ils ont gardé une très grosse influence européenne sur ce point-là?
Alors le féminisme japonais aujourd'hui est très peu présent. Il existe encore des associations féministes partout, je dirais, mais elles sont beaucoup moins vindicatives que dans les années 20. Et leurs écrits en fait s'adaptent aujourd'hui à la société actuelle japonaise, puisqu'en fait du coup l'Occident et le Japon ont évolué de façon différente, et les droits qu'elles revendiquent en fait sont surtout sur l'égalité salariale, mais aussi sur la possibilité de culturellement, économiquement et politiquement pouvoir compter comme individu seul en fait, finalement, et ne plus dépendre, être un peu plus individualiste, puisque le Japon c'est quand même une nation qui est très collectiviste, enfin, pour la collectivité, le bien de la collectivité avant tout, et donc les revendications féministes prônent un peu l'individualité et l'individualisme des femmes. Voilà. Après, les influences, je ne sais pas quels écrits elles peuvent lire et si elles s'inspirent des mouvements qu'on connaît aujourd'hui en France et en Europe, mais en tout cas, elles existent. Pas trop. Non.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Japon par rapport à
Malheureusement, en fait, quand je m'y suis rendue, déjà, la majorité des gens ne connaissaient pas Itonoé. Moi, je partais en me disant ça va être la Louise Michel japonaise, tout le monde va la connaître, et pas du tout. Parce que, en fait, elle a été trop rattachée au mouvement anarchiste pour avoir juste l'étiquette féministe qui, là, peut être enseignée. Par exemple, je sais que Hiratsuka Raicho, qui s'est jamais vraiment politisée, est enseignée, et on la connaît. On en parlait avec Noriko tout à l'heure, elle a eu des cours d'histoire et elle a connu cette personne, Hiratsuka Raicho. Après, la réutilisation d'Itonoé, à part au moment de mai 68, au Japon, on la trouve très peu dans les idées, finalement, qui peuvent émaner. Oui.
Moi, je me posais des questions sur la place de la religion à la sortie de l'ère de Shogun, qui avait l'air assez féodale, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et avant, finalement, une espèce de libéralisation de l'économie. Et je voulais savoir c'était quoi comme religion, c'était la religion.
Alors aujourd'hui, au Japon, les deux religions majoritaires, c'est le bouddhisme et le shintoïsme, qui peuvent cohabiter ensemble. En fait, on peut être shintoïste et bouddhiste à la fois. On peut se marier, avoir un mariage bouddhiste et un enterrement shintoïste et inversement. Et du coup, sous le shogunat, c'était ces deux religions. Je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, mais un massacre des chrétiens dans ces époques-là, puisque c'était des idées contestataires pour eux. Et puis avec l'ouverture Meiji, les chrétiens du coup deviennent plus acceptés, et aujourd'hui il y a des chrétiens au Japon.
D'accord, donc à cette époque-là, ça correspond à une ouverture d'esprit quant à d'autres religions. Enfin, c'est un terreau favorable avec l'économie qui s'ouvre aussi.
Oui, alors il y avait déjà avant l'ouverture des Japonais, enfin des étrangers qui étaient venus christianiser le Japon, mais qui se sont fait souvent massacrer.
Il y a un film dessus, le dernier film de Scorsese, sinon c'est son massacre des chrétiens au Japon. C'est très intéressant justement, parce qu'il ne fait pas le parti pris forcément des chrétiens, ni non plus
des Japonais.
Du système japonais. Moi j'avais une question, est-ce que le féminisme n'a pas subi justement l'échec de mai 68 parce que ça, mai 68, c'est pas au même titre que la défaite de la prière, mais c'est un événement qui est en tout cas dans le collectif, dans l'inconscient japonais et même dans la culture, a beaucoup de répercussions, de retentissements. Ça se voit par exemple. Même aujourd'hui, si on étudie les auteurs de cette période pré-68, post-68, avec ce touché par les désillusions encore dans la utopie, est-ce que c'est du tout le féminisme, le fait que vous disiez aujourd'hui qu'on a le droit au Japon, qu'on parle du tonneau, vous n'avez pas croisé apparemment grand monde qui connaissait le personnage, est-ce que ça s'est effondré, avec l'échec de 68.
En fait, 68 au Japon, ça a été tellement violent que l'État a pas pu que le condamner finalement, puisqu'il y a eu une série d'attentats et notamment l'assassinat d'une femme enceinte en fait lors d'une prise d'otage, qui a fait que le mouvement pouvait plus être fier d'être un mouvement contestataire, ce qui a étouffé totalement finalement la grandeur du mouvement ouvrier étudiant de l'époque. Puisque l'université de Todai, par exemple, qui est la plus grande université au Japon, enfin la plus prestigieuse, a été occupée des mois durant. Au-delà de ça, en plus de l'étouffement parce que c'était allé trop loin, on va dire, le Japon a une propension à réduire ou rendre invisible certaines parties de l'histoire qui est comparable à l'Autriche par rapport à la Seconde Guerre mondiale, ou même à la France par rapport à la collaboration. Puisque, par exemple, La guerre contre la Chine dans les années 30, et notamment le massacre de Nankin, est complètement invisible dans certaines sphères au Japon. Par exemple, il y a un musée à Tokyo sur l'armée japonaise et sur les forces de guerre. Et en fait, on parle de la guerre contre la Mandchourie, et à aucun moment, en 1937, on explique que le Japon a massacré des Chinois ou a tué beaucoup de Chinois. On met juste le Japon a tué les soldats chinois et protégé les civils. Alors que dans les faits, c'est totalement faux. Ça a été un des plus grands massacres de la guerre de Chine. Donc je pense qu'il y a ces deux choses qui se cumulent, c'est qu'à la fois le mouvement de mai 68 est allé trop loin, et le Japon arrive, grâce à une volonté étatique, je dirais, à minimiser certains pans de leur histoire et à la rendre invisible. Mais au même titre voilà, que la collaboration en France ou la Seconde Guerre mondiale en Autriche.
Est-ce que le gouvernement aussi a créé le jeu là-dessus? Parce que le Shinzo Abe n'a pas aidé dans le sens de la reconnaissance des fonds de guerre par le Japon, ou même de sa position vis-à-vis de assez belliciste vis-à-vis de la Chine, ou même voire de la Russie.
Oui, ça dépend vraiment en fait selon le Premier ministre, mais c'est vrai que Shinzo Abe n'est pas le plus progressiste qui soit. Et en fait, il y a un sanctuaire qui s'appelle Yasukuni Noriko. Le sanctuaire, c'est Yasukuni, où se rendent en fait, où sont enterrés des soldats et des généraux qui ont été condamné comme criminel de guerre de catégorie maximum. Et en fait, c'est un choix politique des premiers ministres de s'y rendre chaque année pour la fête du Obon, la fête des morts, ou pas. Et en fait, dernièrement, Shinzo Abe s'y rend systématiquement. Donc, diplomatiquement, c'est un geste fort par rapport au message qu'il envoie à la Corée, à la Chine, qui sont les deux pays avec lesquels les guerres ont été les plus sanglantes. Donc, voilà, en ce moment, je dirais pas que ça va vers...
Surtout qu'il y a toujours les problèmes des îles.
Oui, les îles pourries, oui. Oui.
Moi, j'ai une question sur le particularisme de l'anarchisme japonais. On voit bien qu'il est internationaliste aussi. Il est en lien avec le mouvement ouvrier allemand, français, américain, beaucoup. Néanmoins, il y a une dimension qu'on peut retrouver chez les Allemands, en particulier chez certains Français, chez certains Italiens, sur une dimension quand même très sacrificielle, qui est très, d'ailleurs rendue de manière très forte dans Heroes plus Massacre. On est vraiment là-dedans. Ce qui pousse d'ailleurs certains analystes à dire qu'en définitive, il y aurait quelque chose qui serait proche du samouraï errant, en définitive, dans la mythologie là, et la représentation. En quoi ça marque une différence fondamentale particularisme tel qui est une hybridation d'un anarchisme et d'un féminisme japonais, pour vous, parce que aussi ces textes féministes sont très quasi christiques. Mais bon, les Russes sont très bons, sans doute. Voilà, ou est-ce qu'il y avait aussi des voix plus. Plus tellement internationalistes qu'elles correspondaient quasiment aux standards qu'on pouvait retrouver dans les autres pays.
Alors à cette époque-là, il y a beaucoup de dissensions au sein des sphères anarchistes, puisqu'il y a la sphère anarchiste que je dirais qui est plutôt intellectuelle et celle qui est plutôt du terrain et qui est vraiment auprès des ouvriers, des syndicats. On voit dans beaucoup de textes les uns qui critiquent les autres. Après, oui, la dimension sacrificielle, elle est omniprésente.
Intellectuelle, est-ce qu'il y a un parallèle avec la bourgeoisie ou...
Non, pas la bourgeoisie, mais ça peut être bourgeois finalement de ne pas agir et de rester derrière sa table pour écrire. Après, la dimension sacrificielle, elle vient aussi du fait que l'ennemi à abattre, c'est... l'ennemi à abattre, c'est l'empereur, en fait, qui est une divinité, enfin, qui est considéré comme une divinité au Japon. Et donc, le fait de vouloir abattre cette cible et de se rallier contre cette cible, ça donne aussi un élément... voilà, c'est ça. Après, il y a beaucoup de parallèles, alors je connais pas bien, mais avec l'anarchisme chinois, il y a énormément d'échanges entre le Japon et la Chine. Alors la spécificité de la Chine en matière d'anarchisme, je ne peux pas vous dire, mais...
On a assisté il y a quelques années, entre autres dans le mouvement des sans-toits, c'est ces gens qui campent dans les parcs à Tokyo, on parle des revendications qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps... très clair politiquement, définitive, très forte, qui ne correspondait quasiment plus au logiciel japonais, en tout cas tel qu'on perçoit ici, sans être jamais allé, avec, semble-t-il, quand même des fondements qui étaient quand même très liés aux idées anarchistes. Ça circule comment, ça, encore, aujourd'hui?
C'est encore très, très caché, finalement. Enfin, je sais que les sans-toits au Japon, on ne les voit pas, et pour avoir marché, j'en ai jamais vu. Après, avec les nouvelles formes de communication et avec quand même je dirais, une jeunesse qui prend part à des nouvelles idéaux, enfin, à des nouvelles idées et qui essaie de développer en tout cas des idées un peu contestataires vis-à-vis du gouvernement, puisqu'économiquement, le Japon n'est pas non plus sur la bonne pente et le vieillissement de la population inquiète. La tradition qui reste encore très ancrée voit beaucoup de gens finalement qui veulent en sortir. Donc du coup, c'est grâce à ces jeunes voix qu'on arrive à avoir connaissance de ça. Et je pense qu'avant, en fait, c'était une non. Je pense qu'il y avait toujours autant de personnes sans abri et qui revendiquaient des choses, mais qui étaient moins visibles parce que les gens s'en emparaient pas. Et comme les gens finalement ne se sont pas emparés de mai 68, alors qu'aujourd'hui, pour nous, ça peut être une fierté chez certaines personnes.
Pour précision, il y a encore des gens qui ont participé au 68 japonais qui se font arrêter quasiment dans les dernières arrestations et datent de pas longtemps. Donc l'attente est dure aussi de la part du gouvernement japonais.
Oui. Mais on n'en parle plus du coup pour ça, par peur du gouvernement.
Actuellement aussi, il y a un militant qui s'appelle Jimmy Matsumoto, en fait, qui est à Tokyo. Dans le quartier de Koenji, en fait, le quartier de Koenji, je ne sais pas si tu y es allé quand tu es au Japon, mais en fait, du coup, c'est...
C'est près de quoi
C'est à côté de Shinjuku, en fait. C'est,
d'accord.
C'est à deux, c'est, je crois...
Près du quartier coréen
Non.
Non, d'accord, je ne vois pas alors.
Et en fait, donc, ce fameux monsieur a été, en fait, celui qui a organisé, en fait, la grande manifestation qui a eu après Fukushima, en fait, à Tokyo. Il essaye avec des gens, un groupe en fait j'ai oublié le nom, mais en tout cas vous pouvez regarder, en fait il a monté une guest house qui s'appelle la Manuki Guest House, et en fait tout autour ils ont essayé de faire un espèce de quartier en fait pour pouvoir vraiment respecter toutes leurs idéaux et puis vraiment faire quelque chose de plus social et avec vraiment quand même des idées très anarchiques en fait. Et du coup il œuvre beaucoup avec des Taïwanais et des Coréens. C'est aussi le Koenji, c'est l'ancien quartier en fait hardcore punk etc de Tokyo, et donc du coup il y a encore toute cette mouvance là dans cet endroit, et il se fait régulièrement refuser l'entrée en Corée du Sud, et parce qu'il fait en fait des espèces d'happening un peu. Il fait passer ça pour des tournages de films en fait, pour pas se faire refuser l'entrée, mais du coup, c'est tout devant le Parlement de Taïwan en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des cabines de masturbation, ils ont explosé une voiture en disant que c'était pour un film alors que c'était pour
une performance.
Voilà, donc si vous voulez regarder, c'est.
Le nom du.
Hajime Matsumoto. Il a une page Wikipédia, il a pas mal de choses, donc on peut le retrouver facilement.
Tu as une question aussi. Il me semble avoir lu déjà des articles sur un mouvement féministe, enfin qui se revendique féministe, sur l'émancipation de la femme au sein de son rôle traditionnel, on va dire, s'occuper de la famille, etc. Que ça c'était pas un moindre rôle, c'était très important. Je voulais savoir si ce mouvement féministe là qui était assez souvent cité, je crois, était contré par d'autres courants, peut-être certains qui pouvaient se revendiquer justement de l'histoire d'Itonoé ou de d'autres.
Bah, finalement, alors le mouvement en question, je sais pas, mais finalement c'est ce qui ressort principalement aujourd'hui dans les discours de japonaises, c'est à aucun moment c'est un moindre rôle et qu'on peut très bien s'émanciper personnellement au sein de ce rôle-là. Donc je sais pas s'il y a eu des contradictions avec d'autres, mais finalement aujourd'hui ce sont les idées qui ressortent le plus, donc ça a dû faire son petit bout de chemin. C'était dans quelles années
Oui, j'ai lu un article il y a genre 2 mois.
Sur quelque chose d'actuel.
C'était totalement actuel.
D'accord.
C'était des féministes françaises qui citaient
ce
mouvement-là. Et ils disaient oui, mais enfin bon, les féministes françaises ne peuvent pas citer ce mouvement-là puisque ça n'a absolument rien à voir avec le féminisme tel qu'on connaît ici. Mais je cherchais le nom, je n'ai pas retrouvé. Je suis même pas sûr que ce soit le nom du mouvement féministe, mais que ce soit pas plutôt un nom qu'on donne aux femmes qui cherchent à
avoir cette démarche, d'accord.
À coller justement
d'accord.
Le rôle qu'on pourrait leur donner.
Alors, pour continuer de manière plus informelle.
Ouais.
Sauf s'il y a d'autres questions, là, c'est bon. Hein.
Bon, en tout cas, merci.
Je vais faire part de deux petites indications quand même. Alors, normalement, les aficionados du DSEA auraient pu tout de suite reconnaître cette dame qui a été présentée lors d'une conférence de Guillaume Neveu sur le fichage politique en France. Le fait que quand les Allemands sont arrivés en France, ils n'avaient pas grand-chose à faire parce que tout le monde était fait. Et un mot de mon indignation, c'est que Nestor n'est pas un commandant anarchiste, mais Nestor Makhno est le fondateur de l'armée insurrectionnelle anarchiste, qui s'est d'ailleurs appelé Makhnovchina de son nom, et que par contre sa femme est très intéressante, puisqu'ils ont tous fini à Boulogne-Billancourt. Voilà, et ils sont morts ici. Donc voilà, je vais juste avant terminer de manière très très informelle, et ça sera super, sera super sympa. Je vous présente d'applaudir notre prochain stagiaire. Voilà, merci. Et donc, comme on se mouche pas du coude et que tout ça, ça s'appelle quand même un doctorat sauvage, et donc là, on est suite à la dernière conférence de l'année. L'année prochaine, on a décidé de semestrialiser de manière un peu plus sérieuse, quoi. Pour, si on veut défoncer l'université, là, il va bien falloir qu'on s'organise. L'année prochaine, on va tourner autour de deux thèmes, donc un premier semestre. Alors, l'année va s'appeler « La ville est-elle une bête de sexe comme une autre ?» Donc, un premier semestre autour du sexe et la ville, avec les interventions, on l'espère, de Preciado, de Gilles Favarel, donc Preciado sur la question du genre et la ville, de Gilles Favarel sur la question du proxénétisme, et enfin Nicolas Maille sur le travail anthropologique participatif qu'il met en place avec les prostituées à Londres, qui est hyper intéressant. Et la deuxième partie de l'année sera consacrée aux bêtes. Et comme je le répète, si on veut niquer l'université, il faut qu'on s'organise. L'idée l'année prochaine, c'est qu'on soit peut-être un peu moins dans des formats comme ceci, où c'est sympa, on vient, on écoute des gens intéressants, mais essayer de constituer un groupe de doctorants sauvages, véritablement, et qu'on arrive ensemble à produire de la connaissance autour de ces thèmes, là, faire des workshops un peu plus construits. Donc je vous invite à vous inscrire. Alors normalement il y a des trucs pour s'inscrire quelque part, bon, quelque part là normalement. Sinon vous allez voir les membres de l'équipe. Et puis voilà, je vous laisse boire des bières, du vin, manger des sushis. Si on a été original sur ce projet, des sushis. Et merci encore.
Juste pour terminer, merci à Noliko qui vous a fait entendre un peu de japonais.
Oui, merci.